Si on peut demander aussi à Caroline Demilly de venir, s'il te plaît, pour qu'on puisse vous poser des questions. Vos deux présentations étaient particulièrement intéressantes et notamment ce lien, comme tu l'as bien précisé, d'une attente extraordinaire et finalement des fois de résultats un peu compliqués à intégrer. Bon, je voudrais juste commencer à poser des questions et notamment à Caroline sur les aspects de l'utilisation des données génétiques. Alors c'est vrai qu'il y a une industrie magnifique hein, qui fait beaucoup d'argent, qui vend du séquençage et maintenant enfin du recherche des variants génétiques pangénomiques et maintenant même du séquençage pour des prix relativement dérisoires. Mais quand ils revendent ça, bien entendu, ce qu'ils vendent, ce n'est pas la connaissance. C'est beaucoup de rêves. Et notamment, en Angleterre, en Allemagne, ça commence beaucoup, en France, très discrètement. Donc les gens, pour une petite somme, arrivent à avoir des informations importantes et donnent une prédictivité des troubles mentaux. Je vais savoir quelle est ton expérience là-dessus et qu'est-ce que tu en penses de cette utilisation commerciale de l'approche de la génétique dans la maladie mentale.
Et en fait, les personnes qui ont recours à ce type de plateforme obtiennent des données statistiques, des facteurs de risque et pas des diagnostics causaux. Donc c'est là où est toute l'ambiguïté, parce que qu'est-ce que ça veut dire d'avoir 60% de risque de développer une maladie d'Alzheimer ou 35% de risque de développer une schizophrénie? Et en plus, ils ont véritablement l'information est livrée de manière très brutale, sans aucun encadrement. Alors en fait, ce qui est compliqué, en particulier en France, c'est que finalement, la technique est allée plus vite que l'éthique, est allée plus vite que la loi, puisque en ce moment, il y a un certain nombre de personnes qui réfléchissent avec les législateurs à refondre complètement les lois de bioéthique en France. Mais cette question de l'accessibilité au diagnostic, ça va nécessiter que les médecins soient formés pour pouvoir apporter une réponse aux patients en termes d'orientation pour avoir un avis spécialisé. Parce qu'on a des patients qui arrivent avec ce type de résultats, qui sont paniqués. Il faut que les médecins généralistes, les psychiatres, toutes les premières lignes puissent connaître, puissent auprès des patients relativiser la portée de ces diagnostics qui restent uniquement des facteurs de vulnérabilité et puissent surtout orienté vers des plateformes spécialisées. Par exemple, on a de plus en plus de familles, par exemple des fratries, qui viennent nous voir et qui nous disent « Voilà, mon frère a une schizophrénie, quel est le risque pour mes enfants ? Ma sœur a un trouble du spectre autistique, quel est le risque si je me marie d'être porteur et de transmettre ?» Et ça, je pense qu'il faut une vraie réflexion entre psychiatres et généticiens pour pouvoir, de manière éthique, répondre quand même à ces questions, parce que en fait les gens se posent ces questions, trouveront des réponses qui sont pas adaptées, qui sont pas éthiques. Donc nous, on doit à la fois former les premières lignes pour un conseil et pour pouvoir orienter, et à la fois développer des plateformes qui pourront un jour donner un conseil génétique à ces familles.
Et c'est vrai qu'il y a encore un peu de boulot à ce niveau-là. Je vais me permettre de donner un exemple très personnel. Dans le laboratoire, on a travaillé sur un des gènes de vulnérabilité dans l'alcoolodépendance, le gène qui code pour la dopamine, le récepteur dopaminergique D2 et l'allèle A1 du D2. Et donc, comme on a travaillé sur des grands patients, un grand nombre de patients, il fallait aussi un grand nombre de contrôles. Donc, bien entendu, tous les gens du labo ont participé, donc moi, en sujet contrôle. Et en fait, le gène qu'on a mis en évidence à l'allèle A1 du D2, ben, en fait, je l'ai. Et donc, c'est une bonne réflexe de se rendre compte qu'avoir des gènes de vulnérabilité, ben, ce n'est en rien des gènes de déterminisme. Cette petite subtilité sémantique est importante. Alors, ceci dit, mon neurogénéticien m'a pas raté en me disant « Mais toi, c'est pire, t'es alcoologue. » Donc, effectivement, on se refait pas. Il faut bien faire avec son patrimoine génétique. On va passer maintenant à la pharmacogénétique. Et un peu peut-être dans la même série, on a eu ces puces à ADN sur le groupe des cytochromes P450. Dans la pratique quotidienne, le problème, c'est que nos patients et nos psychiatres ont un petit peu de mal avec la monothérapie dans un monodiagnostic, dans un contexte d'environnement mesuré. C'est-à-dire que les patients ont en moyenne 5, 6, 7 psychotropes pour lesquels les interactions sont considérables. Qui plus est, il y en a qui boivent du pamplemousse, qui est quand même insupportable pour le 3 à 4 dans les cytochromes P450. Et finalement, on se retrouve avec un paysage bien compliqué dans les interactions des cytochromes P450. Comment sortir son épingle du jeu des facteurs génétiques ?
En fait, je pense que c'est un peu là où se place notre discipline et notre rôle de pharmacologue. Ça revient un petit peu, donc là, même si c'est potentiellement les psychiatres qui vont disposer de ces informations-là, s'il n'y a pas de filtre entre un laboratoire de biologie moléculaire qui va rendre des résultats et un psychiatre, ce sont des informations brutes. La génétique, par définition, c'est un patrimoine qu'on a, mais derrière, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le phénotype. Et potentiellement, on peut avoir des variations entre le génotype et le phénotype qui sont dues à des choses environnementales, des interactions médicamenteuses, des interactions avec l'alimentation, potentiellement le tabac et ce genre de choses. C'est pour ça que dans ce que j'ai présenté, ce qu'on essaye de proposer dans le circuit, c'est qu'on va, oui, faire potentiellement de la pharmacogénétique, mais derrière, on aura toujours une expertise pharmacologique qui va être soit par les dosages, soit par le fait d'analyser qu'il y a sûrement une interaction médicamenteuse, soit le fait de, quand on va trouver un dosage très faible chez un patient, mais son génotype ne dit pas qu'il est métaboliseur, ultra-métaboliseur, ben on va poser des questions au psychiatre, essayer de lui dire c'est bizarre, essayer de trouver ce genre de données. Et donc, en fait, c'est une expertise globale. À la base, on est expertise globale de pharmacologue sur lequel les dosages et la pharmacogénétique nous donnent des informations supplémentaires.
Merci. Oui, à vous.
Oui, docteur Gonzalez de Millau. C'était à monsieur Guillaumeau. J'ai vu une publication au mois de mai sur justement la protéine de la dépression, protéine de l'espoir. C'était pour savoir justement la résistance au traitement antidépresseur. Je voulais savoir où ça en était, comme c'était une équipe de Marseille. Savoir si
ça doit être le 5-HTP,
et à quel temps on va faire ce développement de marqueurs. C'est sur
le gène du transporteur de la sérotonine qui a été montré comme étant effectivement avec un niveau de transcription en relation avec l'efficacité clinique, qui n'est pas le gène de la dépression ni de l'espoir, hein, mais qui participe effectivement à l'efficacité des antidépresseurs, niveau de transcription du transporteur.
Tout à fait. Donc là, on est plus sur des données de diagnostic que de thérapeutique. Après, nous, comme je vous disais, entre les données qu'on peut retrouver dans la littérature et sur des études, et ce qu'on est capable de sortir en pratique clinique et de gérer en pratique clinique, parce qu'il faut que c'est un impact sur la prise en charge du patient. Et nous, là, ce qu'on en est vraiment, c'est montrer que ce que je vous ai présenté là, dans des projets de recherche qu'on a, ça va vraiment améliorer la prise en charge des patients. Et pour l'instant, même si ce n'était pas vraiment la question, mais pour répondre un petit peu, pour tout ce qui est pharmacodynamique et pour tout ce qui est récepteur et transporteur, pour l'instant, on n'a pas assez de données et on n'a même pas assez d'expérience par rapport à des prises en charge cliniques sur des populations importantes pour pouvoir montrer que ça a un véritable impact.
Merci.
Pardon. Oui, excusez-moi. Oui, je voulais demander à Caroline de Milly quel lien il y avait entre le plan maladie rare et le plan handicap rare. Parce que les handicaps rares, c'est aussi des maladies en général, au départ. Quel lien existe-t-il entre ces deux plans ?
Alors, le plan maladie rare a labellisé des centres de référence qui s'occupent essentiellement du diagnostic et de donner un avis expertal concernant la conduite à tenir dans ces maladies rares. Le plan handicap rare est un plan qui a labellisé des équipes de prise en charge et qui sont des équipes. Alors, par exemple, en Rhône-Alpes, on a l'équipe mobile handicap rare, qui est une équipe interventionnelle et qui vient en appui des familles et du médico-social pour accompagner des personnes en situation de handicap rare, souvent handicap rare surajouté. Donc, l'articulation se fait, puisque, par exemple, dans notre centre de référence maladies rares, on travaille très, très régulièrement avec l'équipe handicap rare, qui va être une équipe, une fois qu'on a posé un diagnostic et qu'on a un handicap rare complexe à prendre en charge, ce sont des équipes qui vont pouvoir être détachées au plus près pour coordonner et venir en aide pour l'accompagnement des patients. Donc je dirais qu'il y a un lien qui se fait assez bien avec un côté diagnostic expertal d'un côté et un côté accompagnement, prise en charge du quotidien de l'autre.
Merci. Une question devant.
On voit que la montée exponentielle des découvertes va permettre d'affiner les diagnostics et de les sécuriser, voire d'aller vers une médecine prédictive dont le lien sera la prévention ou la possibilité de prévention en amont. Mais moi, là, ça pose une question, à mon sens, de démocratie sanitaire entre le niveau 1, c'est-à-dire la capacité d'offrir ça et à l'ensemble de la population et de pouvoir avoir un recours en soins. Concrètement, ces évolutions, elles n'ont d'intérêt que si elles sont offertes dès le premier niveau dans une logique de bilan de l'ensemble des patients pour lesquels on pourrait avoir des chances de prédire bien en amont d'avoir un diagnostic de qualité. Et le problème, c'est celui de la, de la diffusion de tout ce savoir qui est quand même un savoir complexe.
Des réactions qui vous laissent un peu sidéré, c'est vrai que vous avez...
C'est une grosse question, mais qui...
Merci, Monsieur Benichel, pour cette question qui est très compliquée, hein, qui est la question du positionnement entre une psychiatrie de première ligne, en quelque sorte, et une psychiatrie qui, on le voit bien avec toutes les interventions de la journée et de demain, devient de plus en plus spécialisée sur des créneaux. Mais l'un ne va pas sans l'autre, je dirais, parce qu'on peut avancer très vite dans le champ des connaissances en psychiatrie. Et si, in fine, nos patients n'ont pas accès à tous ces dispositifs et à toutes ces avancées, ben, je dirais que ça ne sert à rien. Donc, peut-être que l'idée, ça pourrait être d'avoir une première ligne de secteur psychiatrique qui puisse être, en quelque sorte, un vaste dispositif de case management qui, en fonction... de la présentation clinique du patient, de ses compétences, ses fragilités, qui puisse solliciter et devenir la base, finalement, qui sollicite des équipes spécialisées, à la fois pour la neuroimagerie, à la fois des équipes spécialisées dans des formes résistantes de pathologie, en génétique, pour la pharmacogénétique, et qu'on puisse avoir comme ça des premières lignes qui soient formées, solides, et qui aient une connaissance un peu transversale de tout ce qui peut être offert en termes de soins psychiatriques, mais je ne crois pas que tout le monde deviendra spécialiste de tout. On ne sera pas tous des neuroimageurs, on ne sera pas tous des généticiens, on ne sera pas tous des surspécialistes de la psychose débutante ou des formes résistantes de troubles bipolaires. Mais par contre, on peut être chacun très spécialisé et être mis en lien par une psychiatrie de secteur qui soit une vraie première ligne et qui soit un vrai case manager.
Et puis les centres références, c'est fait pour servir de référence afin que justement par la suite on puisse généraliser ces informations, en sachant que cette difficulté qui s'explique dans la géographie nationale est encore plus catastrophique au niveau mondial, puisque ces progrès-là coûtent extrêmement cher et ne sont l'apanage que des pays riches. Et les pays en voie de développement sont catastrophiquement en retard pour cela. Clairement, à nouveau, on espère qu'il y ait cet effet château de cartes où les progrès des uns puisse favoriser le progrès pour tous, avec le fait que ces techniques coûtent de moins en moins cher et sont probablement de plus en plus faciles à utiliser. On a largement 2 minutes de plus pour une question, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres sujets. C'est un sujet un peu compliqué, mais très important, parce que c'est vraiment l'avenir. Il faudra qu'on soit très familier avec les approches génétiques, heureusement aussi en psychiatrie. Je vous en prie. Le micro devant, s'il vous plaît.
Une question qui, me semble-t-il, vient naturellement de ce qui vient d'être dit par Caroline de Milly, qui s'adresse à elle, mais aussi à vous, professeur. Est-ce que tout ceci ne nous amène pas, et notamment pour la première ligne, ou notre offre de soins territoriale en général, à considérer que l'axiome selon lequel on va se confronter à plusieurs métiers, je mets le terme entre guillemets, au cours de notre vie professionnelle, n'est pas en train de se rapprocher des psychiatres de psychiatrie générale polyvalente et qui vont devoir effectivement dans nos établissements se confronter pour beaucoup à la nécessité d'affronter un nouveau métier qui est moins fait peut-être d'une connaissance fine de tout ce qui a été présenté que de la capacité à l'ordonnancer et à l'utiliser, y compris dans le recours aux autres et à l'expertise.
Mais je dirais que devenir... faire évoluer notre offre de soins vers une psychiatrie de première ligne, ça va demander une spécialisation et une formation de nos collègues, parce que être à la fois l'accompagnateur du parcours des patients et à la fois avoir une vision éclairée à chaque temps de tout ce qui est possible de solliciter pour accompagner le diagnostic, la thérapeutique, la résistance au traitement, etc., moi, je pense que ça va nécessiter une véritable formation. Et ça ne sera pas une psychiatrie de première intention par défaut de pouvoir se spécialiser sur autre chose. Ça deviendrait une authentique spécialité, le référent médical, psychiatrique du patient qui l'accompagne, qui est en mesure de solliciter tous les professionnels expertos autour de lui. Et je pense que ça nécessite une mutation, mais qui n'est pas une mutation par défaut. C'est un plus, mais un plus qui doit être accompagné par de la formation, je pense.
Personnellement, je vous répondrai le fait que la surspécialisation de la psychiatrie, c'est le meilleur qui puisse nous arriver. Il n'y a aucune raison que cela se passe dans toutes les autres spécialités, pas en psychiatrie, il est très important que nous gardions bien sûr les psychiatres généralistes, par exemple le psychiatre qui travaille au CNP, qui doit recevoir la population générale, et qu'on ait de plus en plus, comme nos jeunes têtes brillantes actuelles, des gens qui soient capables d'être très spécialisés dans des domaines qui nous permettent d'augmenter. Je suis dans l'Université Paris-Descartes, qui est une faculté plutôt bien lotie. Nous avons une bonne quinzaine de PU, donc on n'a vraiment pas à se plaindre. Mais il y a 50 PUPH de cardiologues à l'HEGP. Donc je leur dis, mais comment vous faites, quoi ? Quel est le truc ? Ils disent, ah, mais nous on n'est pas 50 cardiologues. On a 10 spécialistes de la conduction, du trouble de rythme, du trouble de l'œil, etc. Et c'est décliné dans 15 pathologies différentes. Il est grand temps qu'on fasse pareil en psychiatrie. Je vous rappelle qu'en 2023, le DALI, c'est-à-dire la charge de maladies dans le monde, la première sera la maladie mentale, bien avant le cancer et la cardiologie. Merci beaucoup pour vos présentations tout à fait intéressantes.